Vous écoutez
RMC.
RMC.
Sheriff Ndiaye, l'appel éventuellement de Pape Gay dans la surface, le franc et le but de Pape Gay, la barre entrante et le Sénégal qui fait très mal au Maroc. Le Sénégal y a tellement cru, le Sénégal croit très fort et Sadio Mané vient peut-être de réaliser le plus grand geste de l'histoire du Sénégal.
Pas une frappe, c'est un missile, c'est un coup de fusil en prolongation.
RMC, l'afterfoot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Il est 21h06 à Paris, il est 19h06 ici à Dakar. Vous avez entendu les commentaires de RMC lors de la dernière finale de la CAN, messieurs, dames. Et bien, il se trouve que, hasard du calendrier, le Maroc joue un match amical ce soir. Et en plus, on le suit sur RMC. C'est Maroc-Norvège. La Norvège, c'est intéressant. C'est un futur adversaire du Sénégal.
Tout à fait.
Et de la France à la Coupe du Monde. Et Camille Borin suit le match. Bonsoir, Camille.
Salut Gilbert, salut à tous. Oui, dernier match de préparation pour le Maroc et pour la Norvège. On joue à Harrison dans le New Jersey aujourd'hui. Ce match, tu l'as dit Gilbert, il nous intéresse parce que la Norvège est dans le groupe de la France et du Sénégal. Donc les Bleus les affronteront le 26 juin à Boston. Ça fait 28 ans que la Norvège n'avait pas participé à une Coupe du Monde. Et les Norvégiens, ils ont montré un beau visage ces derniers temps. Ils ont terminé en tête de leur groupe de qualification avec 8 victoires en 8 matchs et seulement 5 buts encaissés. Et puis ils ont battu la Suède 3-1 pour leur premier match de prépa, en sachant que Haaland avait été mis au repos. Et côté marocain, on est aussi plein de confiance, tous les cadres sont là sauf Aguerd, et pour l'instant on joue depuis 3 minutes et pour l'instant 0-0 entre le Maroc et la Norvège.
Ah, tout à l'heure Camille, et puis une information concernant Eriksen, le joueur danois qui avait fait un malaise cardiaque grave, rappelez-vous, il y a quelques mois. Et bien ce soir, lors d'un match face à l'Ukraine, il a refait un malaise, il est conscient, et le match a été arrêté, donc on vient d'apprendre l'information, donc on en saura plus tout à l'heure dans l'after après 22h avec Karine Galli. Souleymane Diawara toujours là, Elton Mokolo, Aliou Goloko également. On va parler formation dans quelques minutes avec Alioune Touré qui nous rejoint. Alioune, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Manager chez Diambars, qu'on peut applaudir, l'Institut Diambars, club qui a été champion du Sénégal, qui joue ce soir la finale de la Coupe de la Ligue, ici, qui est réservé aux jeunes.
Oui, effectivement, c'est réservé aux U20. Là, il y a Sonankos qui mène quand même 1-0.
Ah, il reste combien de temps là?
Pas de souci. Je pense qu'il reste 20 minutes. Hein.
Bon, il faut se refaire. 1-0 pour l'adversaire. Et puis, vous le savez, France-Sénégal, c'est du foot, mais c'est aussi de la diplomatie, forcément, parce que les liens entre les deux pays sont très forts. Et si on est ici à l'Institut français, c'est aussi grâce à Madame l'ambassadrice de France qui est avec nous, Christine Fage. Bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Et merci d'être avec nous. Alors, quand on est ambassadrice de France dans le pays que la France va affronter à la Coupe du Monde, j'imagine que vous êtes, je sais pas, peut-être un peu sous pression ou finalement pas tellement.
Nous, on attend le retour des légendes, hein. On attend 2002 bis. Quelle que soit la victoire, nous on gagne. La France gagne, on gagne. Le Sénégal gagne, on gagne. Donc, on est dans une situation assez facile.
À la diplomatie, c'est un métier. Hein.
Vous vous moquez, mais par contre, on va faire une fête ici. On a prévu une fête qu'on espère large et conviviale. Projeter les matchs, accueillir les Sénégalais et les Français que ça intéresse et fêter la victoire du meilleur qui gagnera, et en espérant que celui qui gagnera ira le plus loin possible après. C'est
exactement
ça notre objectif.
Vrai. On voit ici que c'est un pays de football de façon incontestable, un pays de sport. Le Sénégal, c'est assez étonnant l'impact du sport dans la société sénégalaise. Je ne sais pas si vous avez mesuré ça depuis que vous êtes en poste, sans doute.
Oui, vous savez, les Sénégalais sont étonnants sur beaucoup, beaucoup de choses. Ils sont formidables sur beaucoup, beaucoup de choses. Et ils sont très formidables sur le sport, c'est vrai. Les jeunes sont très impliqués. Il y a une grande dynamique sportive. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous travaillons dans le domaine du sport avec la jeunesse sénégalaise. Le sport, c'est un facteur à la fois de développement personnel, de dialogue avec la jeunesse, aussi quand même de développement économique, parce qu'il y a une économie du sport dans ce pays. Et également, c'est quelque chose qui intéresse nos populations, celles que nous avons en commun, qu'on appelle les diasporas, les Sénégalais en France, les Français au Sénégal, et ceux que nous avons en commun qui sont franco-sénégalais.
Et alors, la diplomatie du sport, ça a aussi son importance pour la France.
Oui, la diplomatie du sport, comme toutes les choses qui permettent d'améliorer le vivre ensemble, de mieux se connaître, d'être attentif à l'autre, de vivre des choses ensemble, c'est un élément de diplomatie.
Alors Gilbert, moi j'aimerais vraiment, oui, et je profite de l'occasion en faisant le larron, tirer mon chapeau à Madame l'ambassadrice, très sincèrement. je peux vous dire, ces 30 dernières années, elle est l'ambassadrice ou l'ambassadeur de France qui a su insuffler une vraie dynamique sportive dans les relations entre le Sénégal et la France. Et ça, vraiment, c'est tout à son honneur. Parce qu'avant qu'elle arrive, je peux vous dire, je ne peux pas vous dire c'était nickel chrome, mais il y avait beaucoup de frustration. Elle a pu effacer toutes ces frustrations en allant à l'encontre des sportifs, en les invitant à la Maison France, mais également en essayant de comprendre. Bien entendu, elle n'est pas toute seule avec ses collaborateurs, oui, notamment Samuel Gourgon, mais aussi l'AFD, qui s'investit beaucoup dans les infrastructures sportives. Et ça, c'est à saluer, très sincèrement. Et c'est comme ça uniquement qu'on peut mesurer les progrès faits par les deux pays dans cette diplomatie sportive, dans les relations. Les relations sportives sont en train de mieux raffermir les relations politiques. Et ça nous donne encore une fois et la signification de l'importance du sport dans les relations entre les pays. On parle de plus en plus de soft power, de relations entre pays par le sport. Et je pense qu'elle l'a assez très bien compris. Et elle est en train de faire tache d'huile parce qu'elle est en train d'inspirer les autres ambassadeurs. Je reviens de Conakry. Oh,
tu vas quand même venir avec ton maillot du Sénégal pour le match. Je ne peux pas venir avec un maillot à moitié français, à moitié sénégalais.
On va lui donner un maillot composé.
Non, toi.
J'aurai un maillot sénégalais. Vraiment, madame, je tenais à vous tirer mon chapeau pour cela et continuer sur cette lancée, continuer à permettre aux sportifs sénégalais d'aller se performer en France, mais également aux sportifs français de venir découvrir notre magnifique pays. C'est comme ça qu'on pourra renforcer les liens entre nos peuples et c'est aussi comme ça que nos relations resteront séculaire et historique.
Merci beaucoup, je le prends comme un hommage aussi à mon équipe, très mobilisée sur ces sujets.
Un petit mot sur le foot, parce que je sais que vous avez des rapports très concrets avec des académies également, qui sont aidées. Je ne sais pas, tiens, Alioun, je le vois opiner du chef.
Oui, effectivement. Je vais emboîter le pas au grand frère Aliou Galoko pour remercier le consulat de France, parce que nous, en tant qu'académie, et toutes les académies qui sont au Sénégal quand même,
il y en a une représentée.
On est privilégiés, surtout avec Samuel, avec qui on traite le plus souvent. On est des privilégiés par rapport à la circulation de nos jeunes joueurs pour qu'ils puissent aller en France, soit faire des tests ou signer dans des contrats. Parce qu'ils nous ont facilité vraiment les choses par rapport à l'AFD, par rapport au consulat de France. En tout cas, merci encore, madame l'ambassadrice, et chapeau. Merci.
Sur les académies. Oui. Sadio Mané donc a racheté FC Bourges, aussi Monsieur Koulibaly à Sedan, mais aussi nous avons Brest qui est ici, qui a une académie. Et je suis désolée, mais j'oublie toujours le deuxième.
Oui, c'est Metz. C'est Metz qui a un accord avec Génération Foot.
Génération Foot, voilà. Et donc c'est aussi une manière de donner aux jeunes un espoir, une façon de se former, parce que même s'ils ne deviennent pas footballeurs, le sport c'est une manière de se structurer, de voir la vie, qui permet aussi, qui donne un atout dans la vie en général.
Et surtout que la plupart des promoteurs de ces académies ont un lien particulier avec la France. Pour la plupart, ils ont joué, ils ont volé en France, ils ont été formés en France. Et pour eux, ça leur parle d'être en étroite collaboration.
C'est pour ça qu'on va être encore plus énervé si le Sénégal bat la France le 16.
Allez, nous, on sera contents en tout cas.
Bon, merci de votre accueil, madame l'ambassadrice. Bah écoutez, maintenant le 16. Alors je sais, comment vous allez vivre le match. Vous avez déjà une soirée. Enfin, comment l'ambassadrice va vivre ce match
ici, nous allons mettre un écran. Nous allons accueillir.
Sur cette même scène où nous sommes, là, dans le théâtre de verdure de l'Institut français.
À l'Institut français. Parce qu'à la résidence, c'est un peu petit pour tous les gens que ça intéresse. Mm-hmm. Donc nous allons accueillir les Sénégalais, les Français qui sont intéressés par ce match. Et je vais être là au premier rang et on va tenir. Et voir suivre le suspense jusqu'au bout et faire la fête après.
Quel que soit le résultat, donc.
Voilà, quel que soit le résultat, on va faire la fête, ça c'est sûr. Une fête conviviale et une fête surtout dans le respect mutuel. Je crois que c'est aussi ça le sport, c'est apprendre le respect mutuel et nous, on est très attentifs à ça.
Merci beaucoup d'être venu chez vous, ici, et de nous avoir accueillis une nouvelle fois. Nous, on va parler maintenant des supporters, parce qu'il y a une vraie problématique de déplacement de supporters. D'ailleurs, il n'y aura pas de déplacement organisé de supporters sénégalais aux États-Unis. Il faut qu'on explique pourquoi dans quelques instants. On se retrouve donc dans l'after, dans quelques secondes, avec les supporters, la formation. Et surtout, vous pourrez prendre le micro pour donner également vos avis sur le match du 16. Dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, l'after foot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Il est 19h16 à Dakar, il est 21h16 à Paris. Ils sont toujours là, Souleymane Diawara, Elton Mokolo, Aliou Galoko, Alioune Touré. Messieurs, dames, attention, but pour le Maroc. C'est pas une blague. Match amical Maroc-Norvège, un but a été marqué, Camille.
Qui a ouvert le score sur une passe décisive des Alzouli.
On n'a pas entendu, Brahim Diaz, c'est ça ?
Brahim Diaz, c'est ça.
Non, pas lui.
On n'a pas entendu. C'est vrai en plus, c'est vraiment lui.
Oui, c'est vraiment lui.
Il a marqué sur penalty ?
Non, pas
cette... Ah, okay.
Vous êtes taquin. Donc voilà, c'est une passe décisive des Alzouli à la 7e minute de jeu. Donc 1-0 pour le Maroc, on joue depuis bientôt 13 minutes.
Ah, tout à l'heure. Abdoulaye nous rejoint, auditeur de l'After.
Oui, bonsoir Gilbert.
Bonsoir. Auditeur de l'After depuis le Sénégal.
Oui, depuis le Sénégal, depuis 2012. Je suis tombé dans l'After. J'écoutais l'émission de, comment il s'appelle, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Louis Attaque.
Je ne connaissais pas encore l'After. Après, c'est les Jeux Olympiques avec une émission qui s'appelait l'Intégrale Olympique.
Tout à fait.
Couverture toute la journée et ça m'a vraiment, comme je suis journaliste, j'étais vraiment sensible à cette couverture intégrale, à tous les enchaînements. Vraiment, j'étais fan de cette radio. Et par la suite, j'ai découvert l'après-midi, l'after, petit à petit. Et depuis lors, je n'ai plus décroché.
Bon, et pendant la Coupe du Monde, on va faire pareil. On va faire les nuits de l'after jusqu'à 5h du matin. Super. En heure française, donc il y aura tous les matchs.
Alors Gilbert, Abdoulaye Sako Faye est une des plus grandes voix radiophoniques de ce pays. Il a fait les beaux jours de Sud FM, qui était une grande station de radio, qu'il est encore d'ailleurs. Et il a été également journaliste sportif par le passé. Et c'est un des grands frères, un des précurseurs dans le métier. Et c'est un brillant journaliste et intellectuel.
Merci.
Abdoulaye, tu as écouté le débat là, depuis tout à l'heure. Comment tu vois ce match là du 16 ?
Et c'est un match avec un caractère assez particulier, un match Sénégal-France. Ce n'est jamais un match ordinaire. On peut faire toutes les analyses qu'on veut. Mais le jour du match, c'est avec quoi les joueurs vont venir, c'est eux seuls qui le savent. Et vous savez, il y a un joueur qui s'appelle Elhadj Diouf qui est dans cette sélection. Je peux vous garantir qu'il va faire...
Il n'y est plus, a priori. Il est toujours un peu autour, mais...
Il y a un encadrement.
Oui.
Il va faire monter la moutarde à la tête des joueurs. Et vous allez voir des joueurs super motivés ce jour-là qui ne voudront pas faire moins que ce que la génération de 2002 a fait.
Alors, attends.
C'est que Diouf aura choisi les mots pour les motiver.
Ah mais oui, mais c'est pas le sélectionneur non plus quand même. Parce que moi, je sais qu'il est toujours là, toujours dans l'environnement.
Je peux garantir qu'il dort presque avec les joueurs. Hein. Il est mordu de football.
Quel est son vrai rôle en fait? Je sais pas, Soulet, tu sais toi ou...
Je pense qu'il y a des gens parmi nous qui seront habilités à répondre à cette question, notamment à Hugo Loco.
En fait, tu fais du Elhadj Diouf.
Alors, Elhadj a un...
Non, mais là, match contre la Gambie amical, moi je l'ai vu, il était au bord du terrain.
Oui,
parce que. T'as l'impression qu'en fait, il parlait
il fait
plus
partie, aux... Non, il fait partie de l'effectif, il fait partie du staff.
Oui,
il fait partie du staff parce que c'est. À leur époque, il y avait Jules-François Bocandé qui était une sorte
de
rôle modèle. Il était adjoint, mais une sorte de rôle modèle pour les jeunes. Cette génération-là aussi, parmi eux tous, si vous leur demandez pourquoi ils ont choisi le Sénégal, ils vous diront à cause de 2002. Et qui parle de 2002 parle forcément de Elhadj Diouf. Ça, c'est le premier aspect.
Donc
le
il est respecté par tous les joueurs.
Oui, respecté par tous les joueurs.
Même s'il a un côté fantasque,
Diouf. C'est ça qu'on aime chez Elhadj aussi.
Oui, ouais. Et c'est Elhadj. Et après, il a aussi une relation particulière avec eux. Il leur parle beaucoup.
Frère,
les conseille beaucoup. Et par-delà tout, il porte beaucoup de pression autour de cette équipe. Quand l'équipe est en déplacement à l'étranger, tout le monde sait qui c'est Elhadj Diouf, tout le monde connaît Elhadj Diouf. Il est au devant, il parle à la presse, il essaie de protéger l'équipe et tout. Et son rôle est très très important et fondamental.
Et accepté par le sélectionneur.
Ah oui, tout le monde. C'est parce qu'ils ont fait l'équipe nationale.
Ça pourrait peut-être être compliqué.
Elhadj Diouf, c'est notre Diouf national. Tout le monde l'aime, on l'adore.
Il y a une certaine complicité avec lui.
Voilà.
Très bien. La dernière fois que j'ai fait une interview avec lui, il a dit qu'il voulait être président de la République. Je ne sais pas si c'est toujours si d'actualité, mais...
Je pense qu'il a abandonné ses ambitions. Là, je pense qu'il est très bien dans l'équipe. Il a fait 2002 avec Pape Thiaw, il ne faut pas l'oublier. Pape Thiaw était un joueur de la génération 2002. C'est également une autre dimension qu'il faut mesurer également dans cette compétition.
Donc on va le voir, là, il sera là le 16 au bord du terrain avec les joueurs.
Là, il est en quarantaine parce qu'il revenait du Congo. Mais bientôt, on va le voir dans l'équipe.
Ah oui, rapport à l'épidémie Ebola, donc il est en quarantaine ici à Dakar avant de pouvoir partir.
Les États-Unis ont mis règles en place pour toutes les personnes qui ont séjourné au Congo ces derniers jours. Devront se mettre d'abord 21 jours en quarantaine avant de fouler le
sol. D'ailleurs, la Fédé de RDC, Elton, a dit, mais attendez, nous, en fait, tous nos mecs, ils viennent d'Europe.
Ils sont partis de Kinshasa pour aller en Europe, se mettre en quarantaine en Europe et pouvoir continuer sur les États-Unis.
Ouais, mais pour moi, El Hadji Diouf, c'est le symbole de ce que veut transmettre le Sénégal, c'est la culture de la transmission, parce que El Hadji Diouf, forcément, c'est 2002, c'est Liverpool, et c'est ça a été un précurseur. Et en fait, les jeunes joueurs qui sont devenus évidemment des joueurs confirmés, ils se voient en lui. Moi, il y a une scène qui m'avait frappé, bah, c'était lors des célébrations après le retour du Maroc, c'est l'hommage appuyé de Sadio Mané envers El Hadji Diouf et tout ce qu'il avait été en capacité de leur transmettre. Et donc, on peut pas comprendre le Sénégal ou la sélection nationale sans parler d'El Hadji Diouf pour moi.
Bah, malgré tout,
il fait faillir.
Malgré tout, Soulé, Sadio Mané, il aura plus marqué l'histoire qu'El Hadji Diouf ici au Sénégal.
Il veut nous mélanger. Ah, mais après chacun ça a eu sa génération. Il a eu sa génération. Là, c'est Sadio Mané. Maintenant, on parle plus de Sadio Mané parce que tout simplement Sadio Mané aussi, en termes de palmarès, est beaucoup plus titré que
les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection aujourd'hui. Ah,
et là, ça reste Eladj, ouais, quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Mais Sadio Mané, en termes de football, c'est sûr que il a marqué plus les esprits parce qu'il a ramené beaucoup plus de titres, étant donné que le football, c'est un sport collectif. Et collectivement, ils ont ramené des trophées.
Tout à fait. Non, oui. À ce jour, Sadio Mané reste notre plus grand joueur. Mais il faut retenir que El Hadji Diouf est l'inspirateur de Sadio Mané, tout simplement.
Tu bosses pas la fédération, toi ? Tu commences à m'inquiéter.
Non, mais c'est vrai, Sadio l'a dit partout que c'est grâce à El Hadji Diouf qu'il a rêvé de porter le maillot de l'équipe nationale et de jouer pour la sélection. Donc, grâce à lui, on a eu Sadio Mané. Et Sadio Mané, aujourd'hui, reste notre plus grand joueur à ce jour de tous les temps.
Bon, alors, on parlait tout à l'heure des problématiques de quarantaine, là. Il n'y aura pas de déplacement organisé de supporters du Sénégal aux États-Unis. Il faut expliquer pourquoi, parce que les supporters sénégalais sont en général très bien organisés. Il y a des associations très connues, anciennes. Je pense au 12e Guindé notamment. Là, pour des raisons économiques, en fait,
fait,
et les demandes américaines, aucun déplacement. Mais alors ça, c'est quand même dramatique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé?
Écoutez, c'est dommage pour le football, pour la beauté du football. Parce que ces supporters sénégalais, le 12e Guindé, le Bougie, Alé Kaza.
12e Guindé, c'est 12e homme.
12e Guindé, c'est le 12e homme. C'est eux qui forment le comité des supporters sénégalais. Ils font aujourd'hui partie de l'image du football sénégalais. Partout dans le monde où les Lions se déplaçaient, ils y allaient avec leurs supporters qui sont connus pour leur bravoure, pour leur exemplarité, pour leur passion et autour de cette équipe. Et c'est dommage parce que c'est vrai que sur les histoires de visa, c'est de la souveraineté. On ne peut pas tordre la main aux États-Unis. Ils ont décidé de faire beaucoup de restrictions sur les obtentions de visa. On avait imposé 15 000 dollars d'abord de caution. Ça a été enlevé. Mais au-delà de ça, maintenant, si ça a été levé, on ne peut pas faire de groupe organisé. Parce que, c'est une Coupe du Monde qui va coûter très, très, très cher. Et au-delà, le Sénégal ne pourrait pas se permettre de déplacer des centaines ou 200 supporters. Donc, en plus d'être des visas, il y a le coût de cela, mais aussi le temps pour faire les visas aux États-Unis. C'est très compliqué, trouver les rendez-vous, déposer les dossiers et tout. Tout ça fait que ça va être très compliqué de déplacer et cela. Mais par contre, et c'est là où le Sénégal est un pays béni, le tirage au sort nous a amené à New York, New Jersey. Et qui connaît les États-Unis, qui connaît New York, c'est qu'il y a un Little Sénégal à New York.
Ah bon ?
La 116e avenue, vous avez près de 5000 à 6000 Sénégalais qui vivent là-bas à New York.
D'accord.
Donc ceux-là iront supporter cette équipe et ils vont être en onction avec les supporters restés ici. Et là, je pense qu'il y a le président de la NPS qui est parmi nous. Il a également fait un excellent travail parce qu'il a pu décrocher des visas pour les journalistes sénégalais accrédités. Il y aura au moins une quarantaine, 35 ou 40 journalistes sénégalais qui seront. Et ceux-là, nous retransmettrons et nous donnerons les vibes de l'Amérique pour cette Coupe du Monde.
Mais d'ailleurs, il y a eu un événement il n'y a pas si longtemps qui est un peu passé inaperçu. Le Sénégal a quand même rempli le Stade de France.
Oui.
T'étais impressionné, toi, de un match contre le Pérou, un match amical, ouais. Stade de France.
Non, pas impressionné, parce que c'est vrai que le Stade de France, c'est vrai que moi, c'était incroyable, parce que pour remplir le Stade de France, il faut des grandes équipes.
80 000 places, bon.
Ouais, mais là, on a eu la chance de remplir ce stade, parce que aussi, on sait qu'à Paris, il y a une grosse communauté sénégalaise aussi, et qui voulait voir voir ces champions fêter ce titre de champion d'Afrique.
C'est vrai que c'est un peu plus que la 116e avenue, c'est ce que Naliou.
Ouais, un peu plus. Donc tout le monde était ravi et fier aussi de voir nos champions venir fêter ce titre-là à Paris, parce qu'en général, quand le Sénégal joue à Paris, il joue que dans les stades dans la peut-être 10 000 places. Ils n'ont pas cette chance de gagner cette place pour pouvoir aller voir leur champion. Et là, le fait d'organiser ce match au Stade de France, ah, c'était une belle fête. En plus, il y a eu la victoire, il y a eu le trophée qui est venu à Paris, et je pense que les Sénégalais aussi voulaient voir ce trophée-là. Et on a partagé un magnifique moment face au Pérou.
Alors aussi, pour ajouter à ce qu'il dit, les Sénégalais sont de très grands voyageurs. On a une grosse communauté diaspora en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Belgique ou en Angleterre ou ailleurs. Et ceux-là, ils sont aussi très proches de cette équipe. Les Sénégalais de la diaspora seront très nombreux également aux États-Unis, parce que ils ont moins de problèmes d'accès au visa pour aller supporter cette équipe du national du Sénégal. Et il y a un 12e gagnant de France qui existe. Donc si ceux-là, ils ont également la possibilité d'avoir des visas, je pense qu'ils n'hésiteront pas à aller donner de la force à cette sélection.
Oui, Alioune Touré.
Une situation assez particulière, une motivation de plus, parce que 48 heures avant le match, c'est là où est tombé le verdict, la décision de la CAF de nous retirer le trophée. Donc on a
48 heures avant le match au Stade de France.
Avant le match du Stade de France, parce que au début ils nous ont ouvert que 60 000 places, mais après la demande de billets a augmenté 48 heures avant. Ils étaient obligés d'ouvrir 80 000 places.
Il y a une espèce de mouvement de soutien en fait à la sélection.
Qu'ils ont touché notre amour propre 48 heures avant le match. Après, tous les Sénégalais se sont sentis volés ou quelque chose comme ça. Après, ils voulaient manifester quand même quelque chose. C'est pour cela qu'on a fait le trop-plein au Stade de France.
Abdoulaye.
Oui, je voulais enchaîner sur ça. En fait, pour dire que l'équipe nationale aujourd'hui, ce n'est plus une équipe de football, tout simplement. C'est un étendard. Ils ont vécu un événement au Maroc qui leur a donné une autre dimension. Une dimension de représentation.
L'affection que le peuple sénégalais a pour sa sélection est plus grande depuis cet événement.
Ah non, je le pense maintenant. L'équipe a pris une autre dimension, et ce sont des événements. On se dit que c'est dans les grandes épreuves qu'on reconnaît les vrais hommes. Et ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour les Africains. Et c'est pourquoi, Pape Thiaw, on ne peut pas lui en vouloir de cette décision-là. Il a fait ce que tout Sénégalais aurait fait ce jour-là. Et ça, c'est des valeurs qui sont subjuguées en Afrique, entre guillemets. Et donc, la valeur de l'équipe nationale de football du Sénégal, elle a quintuplé aujourd'hui. Il y a une grosse affection qui dépasse le simple cadre du sport. Et c'est pour vous dire tout simplement que les Sénégalais attendent beaucoup de ce match contre la France. Mais on va le faire dans les règles de l'art. Les jeunes sont bien entraînés. L'équipe a le moral. Et tout va bien pour l'équipe nationale du Sénégal en ce moment. Il y aura des surprises. Mais on va gagner.
Des surprises dans la compo ? Tu veux dire ?
Il y aura des surprises dans la compo. Je vous dis qu'aujourd'hui, même Pape Thiaw ne sait pas la composition qu'il fera ce jour-là.
Oui, c'est possible.
Pape Thiaw, je pense qu'il doit faire des cauchemars en ce moment. Parce que si vous avez vu, par exemple, Sapoko, personne ne l'attendait.
Oui, c'est la surprise de la liste.
Jeune du Bayern. Tout le monde dirait que Sapoko, il va rentrer. Il va rentrer
avec... Il a fait son premier match pro il y a deux mois.
Tout à fait.
Il va rentrer avec Mbow. Mais Pape Thiaw, à l'œil, il a mis Sapoko 90 minutes. Ouais. Contre les États-Unis.
Les États-Unis.
Tu dis, regardez ce jeune. Il, comme on dit en Afrique, il nous a mélangé avec Sapoko. Pour tout ce qu'il disait que Sapoko ne veut pas jouer. Regardez Sapoko.
Comme il est allé chercher Ibrahim Mbaye pour la CAN.
Oui, il l'a mis 90 minutes. Tout le monde se disait, mais il sort.
Le pauvre Ibrahim Mbaye, Aliou, il a un peu payé la CAN parce qu'après, il va avec le PSG. Hein.
Ouais, mais bon.
Donc, je pense que Pape Thiaw n'a pas son équipe. Donc,
et au final, c'est en lien avec aussi ce qu'on est en train d'évoquer, la formation, c'est qu'il y a un tel renouvellement de génération, qu'il y a une telle diversité en termes de profils, qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'entrer dans le 11 de l'équipe nationale du Sénégal parce que les places sont très, très chères. Bah, moi, j'ai eu l'honneur de commenter la finale, et moi, ce qui m'avait frappé, c'est la jeunesse dans cet effectif. Enfin, Soulé, il est bien placé pour le savoir. Dans le bac fort de l'équipe du Sénégal, il y avait quasiment que des 2000. On leur confie des responsabilités très importantes, mais ils n'ont pas été friés à l'image d'un Mamadou Sarr qui avait été extraordinaire. Antoine Mendy également, qui était titulaire au pied levé après le forfait de Crépin Diatta, ça a été la même chose. Malik Diouf qui a été bluffant. Et tout ça, c'est le fruit de quoi? De la qualité de la formation diverse et variée.
Absolument. Je pense que.
Abdoulaye.
Il y a en plus encore pour cette équipe. Pour la génération de 2002, s'ils vont rencontrer les Diouf, les Ndour, vous dites qu'eux, en ce moment, ils avaient faim. Ils avaient envie de prouver quelque chose. Ils avaient envie de passer des étapes. Diouf était à Lens, une petite équipe, voilà, qui s'est débrouillée. Et à partir de 2002, tous les joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde ont trouvé des contrats. Ils sont allés à Liverpool. C'était un moyen de se présenter. Ces joueurs-là avaient faim. Ils voulaient prouver quelque chose. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, ils n'ont pas faim. Ils ne veulent pas de contrat. Ils sont déjà au top. Ils jouent tous en Premier League, dans les grands clubs européens. Donc, ils ont autre chose à prouver. Ils ont envie de jouer pour leur pays. Et ça, c'est extrêmement important. Leur famille les regarde et personne ne voudra faire moins que l'autre. C'est pourquoi je vous dis que vous aurez des surprises dans cette Coupe du Monde.
Abdoulaye, merci. Merci pour ta fidélité à l'After. Donc, depuis plusieurs années.
Et je voulais faire un petit coucou à mes filles qui vous écoutent et que j'ai entraîné dans
J'aime la transmission familiale de l'After. C'est très important.
J'écoute Dabar, Okeya, je suis dans l'After et je vous salue. Coucou à maman.
Ciao. On les salue aussi. Merci Abdoulaye. Dans un instant, on va parler formation avec Alioune, qui est le manager de Diambars, parce que vous allez voir que ça fonctionne très bien. Et puis, il faut qu'on essaie de toucher du doigt les secrets de la formation sénégalaise. Comment vous faites pour en sortir autant des bons joueurs là? Alioune, tu vas nous expliquer ça dans quelques instants. À tout de suite.
RMC. 20h-22h, l'After Foot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Encore une petite demi-heure ensemble ici en direct de Dakar à l'Institut Français avec Souleymane Diawara qui a brillé de mille feux sous le bel de la sélection, je le rappelle. Hein, il n'y a pas que Sochaux, il n'y a pas que l'OM, il n'y a pas que Bordeaux, il n'y a pas que Ligue 1 Plus. Elton Mokolo, lui, a brillé également dans l'After pendant des années. Aliou Goloko est là. Alioune Touré de Diambars, on a que Babacar qui est auditeur de l'After aussi, de longue date. Régulièrement, on est au téléphone avec nous.
Bah oui, depuis le 4 avril 2006, le premier jour de l'émission.
Ah oui.
Rentré au Sénégal depuis un an maintenant. Bah, n'empêche, Max m'appelle toujours, quoi.
Voilà, Max, notre standardiste. Quand il faut parler Sénégal, il t'appelle.
Bah ouais, écoute.
Il a bien raison.
Fidèle un jour, fidèle toujours, voilà.
Alioune, manager donc de Diambars. Alors Diambars, au départ, on disait l'Institut Diambars. Après, il y a eu Diambars FC. Qui a gagné le championnat ici au Sénégal il y a quelques années, hein.
Effectivement.
Qui est une machine à produire des joueurs. Alors, des académies au Sénégal, ici, il y en a plusieurs qui fonctionnent très bien. Qu'est-ce qui fait la spécificité sénégalaise dans la formation des joueurs? Parce que on a l'impression que ça tourne, que tous les ans, il y a des jeunes qui arrivent, qui se révèlent. Je pense par exemple à Camara récemment, là. Enfin, c'est incroyable la production de joueurs de foot ici au Sénégal.
Effectivement. Bon, déjà, pour Diambars, j'ai saisi l'occasion pour saluer les fondateurs, Sahir Seck, le président, à qui qu'on souhaite un très bon rétablissement, Patrick Vieira, Jimmy Adjovi-Boko et Bernard Lama, qui sont les fondateurs. Diambars, c'est un institut à la base. C'est un projet commun, une vision, une aventure humaine. Parce qu'aujourd'hui, comme j'aime le dire, Diambars, c'est un institut. Tous les jeunes qui sont à Diambars, ils sont scolarisés. Aujourd'hui, tu vas à Diambars sur l'équipe type qui joue en deuxième division. On vient de monter, alhamdoulilah, en première division. Tu trouves des jeunes qui ont leur master, qui ont leur bac, qui ont leur BFM.
Donc la réussite sportive s'accompagne forcément de réussite scolaire.
Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la réussite d'Idrissa Gana Gueye n'est pas plus valable que la réussite d'Ali Sulaiman Lee. Ali Sulaiman Lee, qui est ce qu'on appelle communément ici un talibé, un enfant de la rue. Quand il venait à Diambars, il n'a jamais appris à lire ni à écrire. C'est à Diambars qu'on l'a scolarisé. Aujourd'hui, c'est un ingénieur à France Télécom.
Pour vous, c'est autant une réussite que Gueye qui est en sélection nationale.
Absolument. Aujourd'hui, on a signé des partenariats aussi avec des universités américaines. Dans beaucoup d'universités, tu trouves des jeunes Diambars aujourd'hui qui ont eu leur graduate, aujourd'hui qui sont des coachs là-bas. Aujourd'hui, à Diambars, le coach des gardiens, le directeur des ressources humaines, le directeur de Diambars, c'est des anciens de Diambars aujourd'hui. C'est eux qui gèrent la boutique en quelque sorte. Donc c'est un leg, c'est une aventure humaine, c'est un institut. Ouais. En général, le président, il disait toujours que le football, c'est juste un prétexte. Parce qu'à Diambars aujourd'hui, manque de volonté à l'école, c'est un risque d'exclusion. Mais quand tu manques de talent ou de la technique ou de la tactique, on peut te le donner. On peut pas te virer de Diambars parce que t'as pas fait de bons résultats sur le terrain. Mais si tu manques de volonté à l'école, mon gars, tu peux plier bagage, en quelque sorte. Donc, c'est une aventure humaine, déjà. C'est un projet sport-études. Les deux sont valables. Et l'école est à l'intérieur de Djamba. Tu ne peux pas être à Djamba et que tu n'es pas scolarisé. Même ceux qu'on recrute et qui avaient fait des études ou qui ont laissé les études 2 ans avant, ils sont obligés de reprendre ou on les met dans des écoles de langue ou quelque chose comme ça. Donc c'est une aventure humaine parce que le
plus. Alors dans ce cadre-là, comment ça se passe quand un club européen vient vous voir en disant tiens, ce joueur-là, il nous plaît, on aimerait bien le tester ou l'acheter. Comment vous fonctionnez dans ces cas-là alors?
Moi, je me souviens d'un cas assez cocasse qu'on avait avec Pate Sis, parce qu'il devait faire son bac.
Qui va à la Coupe du Monde. Il joue au Rayo Vallecano, qui a joué la finale de la conférence.
En 2015, lorsqu'il devait partir, il avait signé dans un club de deuxième division, j'ai oublié le nom, au Portugal. Mm-hmm. Il avait déjà signé son contrat et le club le voulait tout de suite. Mais le président a posé son veto pour leur dire qu'il doit faire son bac d'abord.
Donc il est resté au Sénégal.
Il est resté au Sénégal jusqu'à la fin de saison. Alhamdoulilah, il a eu son bac. Après, il est parti. Et alors, donc, beaucoup de jeunes de Djamba que tu vois, c'est des jeunes qui ont leur master, leur licence et leur bac avant d'être des joueurs de football. Donc, le plus important, c'est de former des hommes avant de former le joueur. C'est ça le projet en quelque sorte. Après, par rapport au football, comme on le sait, aujourd'hui, sur les 4 dernières années, Djamba a sorti 41
joueurs. 41
joueurs. 41
joueurs, on a sorti. C'est plus que tous les centres de formation français. Aucun centre de formation français.
Pour te dire quelque chose, là, en début de saison, cette saison 2025-2026, on a commencé la saison en octobre. En janvier, on perd 8 joueurs. 8 joueurs. Anderlecht, Yaya Diémé. Il a fait la première partie de la saison. À la fin de saison, il se trouve à Strasbourg sur les 3 derniers matchs titulaire avec
Excellent
Strasbourg.
Club.
Yaya Diémé. Et je prends cet exemple. Omar Sarr, la première partie de saison, il l'a fait avec nous. À ses 18 ans en janvier, il est parti à Anderlecht. Et ça, boy. Donc, le projet, c'est ça. Et tout le monde sait qu'en matière de formation, c'est les deux leviers qu'il faut activer, c'est le recrutement et la méthodologie. Aujourd'hui, on a un peu changé de méthodologie ces 3 dernières années. Bon, peut-être inspiré un peu de cover pour arriver à sortir des joueurs qui vont faire le switch tout de suite dès qu'il arrive en Europe, en termes de culture tactique, technique tactique, parce qu'on avait ces problèmes. Mais là, on a changé un peu de fusil d'épaule pour pouvoir former des joueurs qui sont prêts pour jouer.
Suleymane, t'es bluffé quand tu vois la productivité des académies ici ?
Bluffé, je suis surtout content et fier de voir des entraîneurs, des éducateurs qui arrivent à faire ce métier parce qu'on sait que c'est un métier qui est hyper, hyper compliqué. Et encore une fois, je tire mon chapeau aussi à tous ces éducateurs parce que sans eux, il n'y aura pas tous ces jeunes talents sénégalais. Et c'est pour ça que, encore une fois, merci, 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 je le dis jamais assez parce que, voilà, on se rend pas compte le travail qu'ils font au quotidien pour permettre à ces jeunes d'aller en Europe, dans les 4 coins du monde pour exercer ce métier.
Toi, t'as grandi en France.
Ouais.
Quand t'es arrivé, quand tu venais ici, que tu voyais le foot là dans la rue, tu voyais les clubs et tout, tu t'étais surpris. Enfin, tu comparais un petit peu les modèles.
Maintenant, c'est différent parce que avant il y avait pas autant d'académies. C'est pour ça qu'aussi je pense que le Sénégal, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ne fabriquait pas autant de joueurs parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de pouvoir s'exercer. Et là, le fait de voir autant d'académies, ça leur permet d'avoir un suivi, d'avoir des terrains de qualité, de pouvoir faire des matchs tout le week-end et montrer leur talent. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de plus en plus de joueurs de qualité.
Il y a une concurrence entre académies, entre vous ?
Écoute, pas une concurrence, mais une complémentarité. Parce qu'aujourd'hui, depuis ces 3 dernières années, je constate qu'on sache travailler ensemble, en quelque sorte. Aujourd'hui, au Sénégal, on sait qu'on avait des problèmes pour la compétition de jeunes. Les académies, nous, on s'est regroupés. Quand on appelle académie, c'est ce que fait notre fameux Sidi Diarra. Je salue Khalil et ses deux passages.
Qui sont là ce soir.
Qui ne ménagent aucun effort. Donc, on s'est regroupés. Il y a 3 ans, nous, académie, Génération Foot, Djamba, Dakar Sacré-Cœur et tout. On s'est dit, les gars, le Sénégal, j'aime appeler le Sénégal un centre de formation à ciel ouvert. On n'a pas des clubs comme Raja, comme Oraya, comme TP Mazembe, comme Al Hilal Soudan, je parle sous le contrôle de Grand Aliou, qui connaît bien le football africain. Mais quand même, on arrive à former des joueurs pour ces clubs. Il faut qu'on se regroupe, qu'on arrête avec un peu les clubs traditionnels, qu'on laisse les clubs traditionnels faire le championnat et tout. Mais nous, qu'on se regroupe et qu'on fasse un championnat entre nous. Donc, au début, on était 8 académies, première année. Deuxième année, 10 académies. Troisième année, 12 académies. Cette année, on est 24 académies.
Donc, vous avez organisé votre propre championnat, en quelque sorte.
Championnat pour les académies. Ouais. Maintenant, la fédération a mis la main dedans. Et en plus, la particularité de ce championnat, c'est pour cela que quand le Sénégal prend la Coupe d'Afrique U17, on gagne tir au but en quart de finale, tir au but en demi-finale, tir au but en finale. Dans ce championnat qu'on joue
d'ailleurs,
en U17...
Tu étais manager des U17, hein?
Oui, j'étais avec les U17.
Là, il y a quelques semaines, qui a gagné la CAN U17.
Bon, écoutez, quand on allait au tir au but, moi, je partais. J'ai dit, les gars, ça y est, c'est bon. Parce qu'ici, la particularité des championnats de jeunes à U15, U17 et U19, après chaque match, il y a tir au but. Peu importe le résultat.
C'est comme l'étoile rouge de Belgrade contre l'OM en 91. Ils faisaient les tirs au but en championnat.
La particularité est, après chaque match, Génération Foot bat Djambar 4-0, mais à la fin du match, il y a tir au but et il y a un point qu'on met. C'est ça, c'est le championnat. Là, on joue presque... On a eu 25 matchs en U19. U15 aussi. Pourquoi le Sénégal est champion d'Afrique? C'est pas neutre. Parce que chaque trimestre ou chaque bimestre, tous les 24 académies qui participent à ce championnat, on se regroupe à Djambar pendant 3 jours. Et on joue des matchs. Gilbert, on joue des matchs.
Alors, ce qui est important...
Alors, attends, on va faire une pause. Et après, on aura encore un petit quart d'heure de débat. Et si vous entendez un appel à la prière derrière nous, c'est parce qu'on est la suite française est à proximité de la mosquée du plateau ici à Dakar. On se retrouve tout de suite encore un quart d'heure ensemble.
Merci.
En direct de Dakar avec ce sujet passionnant de la formation. À tout de suite dans l'after.
RMC 20h-22h, l'after foot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Il est 21h49 en France, 19h49 ici à Dakar, encore 10 minutes ensemble avec Souleymane Diawara, avec Elton Mokolo, Aliou Goloko, avec Babacar qui est auditeur de l'after, et avec Alioune Touré. Alors sur WhatsApp on me dit ouais, mais est-ce que c'est le Alioune Touré? Non, c'est un homonyme du Alioune Touré qui a été joueur en France, on est d'accord.
Absolument.
Peut-être on doit peut-être te poser souvent la question, mais bon, je le précise.
Alioune Touré du PSG,
d'accord.
On confond toujours avec lui, hein.
C'est vrai?
Ah ouais.
Alors, il y a quand même un truc, moi, dans ce qu'on parle de formation. Pourquoi est-ce qu'au Sénégal, on n'arrive pas à avoir un club très fort, comme peuvent l'avoir, tu en as cité tout à l'heure, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, avec l'Espérance. Il y a des supers académies, mais il n'y a pas un club qui est capable d'aller gagner une coupe d'Afrique des clubs, Aliou.
Ce que vous dites est tellement vrai, parce que depuis que la Ligue des champions africaine existe sous sa forme actuelle, il n'y a qu'un seul club sénégalais qui a déjà atteint la phase de poule de groupe. C'était le Tenguedj FC, qui a fini encore champion cette année. Ça s'explique tout simplement par la bonne et simple raison que le modèle économique des clubs sénégalais n'est pas aussi viable que ceux de ces pays maghrébins ou d'Afrique australe. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les clubs sénégalais ont du mal à retenir à Dakar leurs meilleurs joueurs parce qu'ils y vont là où il y a de meilleures offres financières, où ils ont, parce qu'au-delà du football,
même en Afrique parfois,
oui, en Afrique, parce que des joueurs sénégalais vont en Mauritanie, vont en Tanzanie, vont dans des pays où ils sont mieux payés que ce qu'ils gagnent ici. Et parce que le Sénégal est un vivier, ils n'ont pas du mal à renouveler les effectifs. Et le troisième aspect, ces clubs pendant longtemps ont été gérés par des mécènes. Et donc, et c'est là le principal challenge du football sénégalais aujourd'hui, c'est d'amener un club sénégalais à remporter au moins une compétition africaine de clubs. Quand on aura fait ça, on aura fermé la boucle en termes de football africain. Mais il faut repenser le business model de nos clubs. Il faut retenir nos meilleurs joueurs. C'est difficile, mais il faut le faire. Et pour cela, il faut que l'État mette la main à la pâte, mette en place des mécanismes qui permettront aux clubs de pouvoir avoir plus de moyens pour aller à la conquête du continent.
À Lyon, il y a beaucoup de joueurs en activité qui investissent dans les académies. C'est une tendance, on en parlait avec Aliou tout à l'heure. Ça veut dire que c'est... Pourquoi font-ils ça? Qu'est-ce qu'ils recherchent avec ces investissements?
Bon, c'est le mot qu'a utilisé Aliou tout à l'heure, c'est le « giving back ». Donc c'est quelque chose de très intéressant. J'ai vu Kalidou Koulibaly avec Marodi, Irissa Ganagay, Forhop, Cheikh Meng United, Dembaba, amitié.
Tu sais.
Donc, bon, il y a une partie de business qui est là, parce que comme l'a dit tout à l'heure Soleil, le Sénégal, c'est un vivier. Moi, on n'a pas de très, très grand club, parce que le modèle économique, il faut le revoir. Il faut plus professionnaliser le sport. Je vais parler sous le contrôle.
Je mets un peu les pieds dans le plat. Ça veut dire que avoir une académie, ça rapporte plus d'argent parce qu'on vend des joueurs.
Bon, écoutez, je vais pas dire ça rapporte plus d'argent sur un projet que je maîtrise comme Diamar. Presque la majeure partie de l'argent que tu récoltes, tu le redépenses parce que on tourne avec 145 pensionnaires. C'est pas tout le monde qui va sortir sur le football. Tu vas prendre une génération de 18 joueurs. Peut-être c'est 6. Maximum qui vont sortir ou quelque chose comme ça. Après les autres, comment tu vas faire pour les en tenir pendant 5 ans? Et en plus, Diambar, après ton bac, on est obligé de te suivre. Si tu pars pas aux États-Unis, tu ne réussis pas sur le football, on te paye aussi pour ton post-bac. Donc, pour en tenir ça, c'est presque 2 millions d'euros de budget annuel, quelque chose comme ça, avec 170 employés et 145 pensionnaires. On est sur 15 hectares, l'entretien, le coût de l'entretien et tout ça, c'est des calculs. Donc, c'est pas.
Le joueur que vous avez le mieux vendu?
Aujourd'hui, il s'appelle Sidi Barham, qui a signé à Liverpool. Aujourd'hui, ils ont eu du sort. J'ai dit que les Anglais ont dérégulé le marché aujourd'hui. Parce que pour la première fois, tu vois en Afrique des jeunes qui quittent directement maintenant l'Afrique pour aller directement en Angleterre. Ce qui n'est jamais arrivé.
Oui, avant, il passait par des championnats un peu intermédiaires.
Par des championnats intermédiaires. Là, je cite Mourinho qui a quitté Amitié pour Liverpool directement. Sidi Barham, même chose. Koné du Mali qui a quitté pour Manchester directement. Là, on me sollicite encore. Il y a Manchester United qui me sollicite. Yaya, il est passé par Chelsea et tout. Donc, ils ont complètement dérégulé le marché.
En fait, c'est plus les clubs français ou tu parlais des clubs portugais tout à l'heure qui viennent te voir. C'est la Première Ligue, quoi.
C'est la Première Ligue, c'est les clubs français, c'est les Espagnols.
Alors, ce qui est pour moi quelque part logique, parce que il y a eu notamment le marché brésilien qui a été notamment très recherché. Et aujourd'hui, la prochaine étape pour moi, ça va être le marché africain.
Exactement. Et surtout qu'il faut perpétuer une tradition. Le Sénégal, on ne le dit pas assez, est le troisième pays exportateur de footballeurs après le Brésil et la France mondiale. Et ça, c'est fondamental parce que on transfère des joueurs depuis plus de 10-20 ans. Parce que, comme on a dit, c'est un vivier et c'est une école de formation à ciel ouvert. Il y a beaucoup de talent, mais la spécificité du footballeur sénégal, c'est surtout le mental. C'est tous des Souleymane Diawara. C'est des gamins qui sont prêts à mettre des gants pour jouer sur un terrain sous 45 degrés.
Il vient de citer.
C'est vrai qu'on n'a jamais compris. Mais...
Il vient de citer le Brésil comme exemple.
Ouais.
Nous, à Yamba, on organise depuis 2020. Le plus grand tournoi inter-académie de l'Afrique, à part celui de l'Académie Mohamed VI. On regroupe les meilleures académies d'Afrique. Tu as plus de 200 clubs qui sont représentés. Cette année, on a eu 7 clubs brésiliens.
Enfin.
Les plus grands, j'ai dit, Palmeiras.
Les Brésiliens viennent ici.
Les directeurs sportifs.
Ah ouais, qui viennent jouer.
Palmeiras. Non,
qui viennent superviser autant pour moi, détecter.
Pour détecter sur ce tournoi, ça s'appelle l'African Challenge Cup.
Challenge Cup.
On était à la 7e édition cette année. On a eu plus de 200 clubs qui sont représentés. Plus de 100 scouts qui étaient là et directeurs sportifs. La particularité cette année, on a reçu les 7 plus grands clubs brésiliens avec leurs directeurs sportifs qui sont venus à la source. Et il y a des jeunes Sénégalais qui commencent à partir au Brésil.
Ils ont les moyens, les clubs brésiliens, il faut dire, depuis peu.
Oui, Babacar. Je vais ajouter un mot là-dessus. Moi, je voulais faire la corrélation avec la dérégulation qui a été causée par l'arrêt Bosman. Parce qu'avant, Aliou va pouvoir le confirmer. Comme tu le sais très bien, il n'y avait que 3 étrangers qui étaient autorisés dans les clubs. Donc, du coup, les Sénégalais, qu'on appelait les SNF, les Sénégalais de France, souvent, les Sénégalais quittaient le club ici, à ce qui était alors la première division, pour directement arriver en Ligue 1 et y jouer. Parce qu'ils avaient le niveau.
Parfait.
Après, la phase intermédiaire a été celle d'envoyer les jeunes dans les académies, finir leur formation, etc. etc. Cette dérégulation qui a été causée par l'arrêt Bosman a eu des répercussions en Afrique aussi. En quoi faisant, aujourd'hui, les jeunes partent beaucoup plus tôt et un petit peu partout. Tout à l'heure, en discutant, je vous disais que je pense qu'en France, en tout cas, après le Brésil, c'est le Sénégal le premier pourvoyeur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de fondamental dans la réussite de ces jeunes, c'est qu'ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Les jeunes sont animés d'une détermination incroyable. Et aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure le grand Abdoulaye, c'est-à-dire que l'équipe nationale, par exemple, du Sénégal, c'est l'étendard. Il y a une fierté qui est aujourd'hui attachée à cette équipe incroyable. C'est pour ça que les gens sont si, comment dire, mais déterminés, engagés aux côtés de cette équipe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous pour la finale.
Non, mais justement.
Bon, attends, on n'a plus le temps, c'est fini. Ouais. Tour de table avant de partir. Je veux un pronostic pour le 16. Alioune, France-Sénégal.
2-1 pour le Sénégal.
Babacar.
Moi, je vois un match nul et nous, par contre, on gagne la Coupe du Monde.
Soulé.
Ah, ça va être difficile. Hein. Je vois un match nul ou une petite victoire du Sénégal à l'arrache.
Elton.
Je vais devoir équilibrer 2-1 et équipe de France.
Aliou.
Alors, ça va être la troisième rencontre officielle entre le Sénégal et la France. En 63, le Sénégal gagne 1-0. En 2002, le Sénégal gagne 1-0. Jamais 203.
Évidemment. Eh oui.
Messieurs-dames, moi je vous dis que la France va gagner 2-1 à l'arrache. La France va gagner. Merci à tous d'être venus nous voir ici. Merci à l'Institut Gilbert. Français. Merci à l'Institut de nous avoir reçus et à tout son personnel. Ils nous ont fait un plateau extraordinaire, un vrai terrain de foot. C'était génial. Et bon match le 16. On y sera. Ce sera dans l'after, ce sera sur RMC. Et bah, que le meilleur gagne. Au revoir à tous.
Allez le Sénégal.
Merci. L'after foot en direct de Dakar.